Nouvelle émission Souvenir, Souvenir devient Souvenir, Souvenir de radio. Souvenir, Souvenir, l'émission radiophonique préparée par les résidents et résidentes de la maison de retraite Les Amarantes à Tours. L'équipe de Souvenir, Souvenir, c'est Annie, Hilda, Marie-Vonne, Arlette et moi, Ginette. Pour cette nouvelle émission Souvenir, Souvenir, devient Souvenir, Souvenir de radio. C'est à la radio, sur Radio Campus Tours, que nous allons vous partager nos souvenirs de radio, vous parler d'animateurs, d'animatrices et d'émissions de radio qui ont bercé nos jeunes années, comme Zappy Max, Mehdi Grégoire ou encore Salut les copains. Amis auditeurs et auditrices de Radio Campus Tours, peut-être que dans 50 ans, vous raconterez à votre tour vos souvenirs de radio et parlerez de Radio Campus Tours et de l'émission Souvenir, Souvenir. Pour conclure l'émission du jour dans la bonne humeur, nous finirons en musique et en chanson. Nous vous souhaitons une très bonne écoute.
Et vous écoutez Radio Campus Tours sur le 99.5. Et donc nous sommes installés confortablement et au chaud dans la salle d'activité de l'EHPAD Les Amarantes. Et je suis cet après-midi accompagné de 5 personnes. Donc là, je suis en train d'allumer les micros de l'ensemble des personnes qui sont autour de moi. Et donc, sur cet après-midi, il y a avec moi, et je vais lui laisser le temps de prendre son micro et de se présenter.
Je suis Hilda, née en 1939. J'habitais à Trankirchen en Autriche. Bien sûr, personne ne connaît ça. Hein. J'étais serveuse dans un hôtel-restaurant. Je suis venue en France pour apprendre la langue en étant fille au pair. Avec des personnes qui venaient en vacances, ils m'ont invitée à venir, je l'ajoute, en promenant le chien après de la famille où j'étais arrivée, boulevard Béranger. J'ai rencontré celui qui est devenu mon mari. Et ne suis jamais repartie en Autriche. Ça, c'est un peu fou. J'ai quand même fait des petits tours pour aller en vacances, même avec mon mari. On a tenu ensemble une auto-école à Tours et on a eu 3 enfants. Vous vous rendez compte ?
Est-ce que ça veut dire que vous saviez très très bien conduire si vous aviez une auto-école ?
Ça devrait, mais je ne conduis plus, alors déjà depuis...
Eh bien, on a une surprise, on a un créneau à faire juste devant l'EHPAD, bon. avec un véhicule utilitaire, on vous regarde, et à vous la manœuvre.
C'est un véhicule, un grand véhicule que je n'ai jamais conduit. J'ai toujours que conduit une dauphine, un truc comme ça, des petits.
On va passer la parole à votre voisine, et donc c'est...
Alors voilà, je suis Arlette, née en 41 à Tours et j'y ai toujours vécu. Après mon certificat d'études, j'ai été prise comme apprentie vendeuse dans la boulangerie d'à côté. Puis j'y ai engagée comme première vendeuse au Paradis des Enfants, un magasin de jouets avenue de Grammont. À la fin de ma carrière, j'ai acheté un pressing et j'étais mariée à... J'ai eu 2 enfants, un garçon et une fille, qui sont toujours à Tours.
Ça s'appelait le paradis des enfants, c'est
le
ça ?
Le paradis des enfants, oui.
Parce que c'était plutôt destiné, vous ne faisiez pas que pour des choses pour les enfants. Parce qu'on sait que les enfants aiment les gâteaux, les trucs comme ça.
Ah non, c'était uniquement le jouet. C'était uniquement le jouet, les landaux. J'allais faire les achats, plus exactement, les achats. Pour Bordeaux, à Bordeaux ou Paris, avec les personnes de magasins comme nous, qu'on faisait nos choix et pour les commandes.
Donc vous étiez en fait incollable sur les tendances, les modes de jouer lorsqu'arrivait Noël sur les listes que les enfants font, Père Noël, etc.
Ah oui, ça on avait. Puis on n'était pas nombreux, alors on avait des achats à faire souvent, étant donné que on avait beaucoup de clients et pour nous c'était très bien à cette époque-là.
Donc là, cette fois-ci, je pense que je suis bon. C'est Marie-Vonne à qui on va donner la parole pour se présenter à son tour.
Bonjour à tous, je suis effectivement Marie-Vanne, je suis retraitée de l'éducation nationale où j'ai enseigné pendant 5 ans en collège, puis 5 ans de lycée et 5 ans de collège et 30 ans de lycée après. Je me suis beaucoup plu dans ce métier-là et c'était pour moi une source d'épanouissement sur toute la ligne.
Vous enseignez quelle matière ?
Mathématiques.
Aïe, alors je suis désolé Marie-Vonne, j'avais beaucoup d'estime pour vous jusqu'il y a à peu près 30 secondes.
Vous n'êtes pas le seul.
Non, j'étais très fâché avec les mathématiques, mais il paraît que c'est typiquement français, que les Français, on est souvent pas bien vus sur la façon dont on enseigne les maths. Alors je ne sais pas vous ce que vous en pensez, comment vous avez enseigné les mathématiques ?
Disons beaucoup d'exemples, des exemples pratiques pour donner la notion de la réalité aux élèves. Que ce soit en primaire ou après, des tas d'exemples qui figuraient ce qu'on allait utiliser.
À l'époque, pour être professeur de mathématiques, on faisait ça. Vous avez fait professeur après être sorti de quel examen ? Du baccalauréat ? Ou il y avait une école préparatoire ? Comment ça se passait ?
Non, après le baccalauréat, il y avait une formation possible pour passer les concours, pour être titularisé. Et là, j'avais décidé de passer le concours pour être titulaire et avoir la sécurité de l'emploi. C'était important pour moi. Parce que mon mari étant fonctionnaire, il pouvait avoir affaire à des entrepreneurs peu scrupuleux dans les marchés publics et il voulait préserver nos biens. Donc voilà comment ça s'est passé. Et du coup, des gens qui étaient bien plus forts que moi à la fac ont loupé parce qu'ils ne devaient pas préparer suffisamment le concours. Moi, je ne l'ai pas loupé, je l'ai eu du premier coup et j'étais contente.
Est-ce que ça vous a permis, vous avez enseigné qu'en Indre-et-Loire ou vous avez pu voyager dans différents établissements et dans d'autres régions en France ?
Oui, j'ai commencé par 5 ans au lycée des Ardennes, Charleville, où j'avais été élève pendant 5 ans. Ensuite, 5 ans en application et 5 ans au lycée. Après, quand mon mari est venu dans le secteur, j'ai attendu plusieurs années pour pouvoir avoir un poste à proximité parce que lui devait être sur place puisqu'il avait affaire au marché public. Et puis après 30 ans de lycée à Romorantin.
Ok. Est-ce que ça vous est arrivé après de recroiser d'anciens élèves à vous qui gardaient ou un bon souvenir, ou certains ont c'est peut-être un souvenir un peu fâché avec les maths, mais est-ce que vous recroisiez d'anciens élèves ?
Oui. Et parce que j'ai quelques élèves avec qui j'ai gardé contact et qui appréciaient sans doute nos contacts. Et ça été source d'amitié.
Donc, c'est vrai qu'il y a des fois, il y a des histoires qui sont sympas comme ça entre élèves et professeurs.
Oui. Oui.
Est-ce que Ginette a prévu aussi une présentation personnelle ?
Je suis Ginette, née en 1936 à Lavaur, en Dordogne. J'étais jardinière d'enfants, comme on disait à l'époque, dans un jardin d'enfants qui est une structure d'accueil qui se trouve à mi-chemin entre une classe de maternelle et une crèche. Aujourd'hui, le nom de mon métier a disparu, mais il ressemble à éducateur spécialisé. J'ai exercé à Narbonne, puis dans la région parisienne. Je suis venue en Touraine parce que mon mari en est originaire. Je me suis par la suite consacrée à l'éducation de mes 3 enfants.
Donc vous avez continué de jardiner, en fait.
Voilà.
C'est vrai qu'elle était bien, cette expression, parce que jardiner, on imagine quelqu'un qui arrose avec un arrosoir les enfants pour les faire pousser. Et c'est vrai que le terme n'existe plus. Enfin, y a une notion qui est intéressante et qui est jolie, ouais, là-dedans. On donne la parole à Annie.
Donc, je suis Annie.
Je suis née dans le Jura, j'ai vécu dans le Jura, j'ai fait mes études à Besançon. Et pendant les vacances scolaires, j'animais des colonies de vacances et c'est là que j'ai rencontré mon futur mari. Je chantais et il adorait chanter aussi, donc il m'a tout de suite regardée et on s'est bien plu l'un et l'autre. Voilà. Lui, sa famille était de Touraine, donc je suis venue en Touraine avec lui. Et j'ai eu deux filles. Une est à Paris et l'autre est en Suisse, où elle enseigne le français, où elle organise des expositions, des activités.
C'est dingue, on rencontre des Tourangeaux partout. On rencontre des Tourangeaux dans le sud de la France, dans le Jura. Mais qu'est-ce qu'ils font tous ces Tourangeaux Même en Autriche, oui, mais bah c'est oui. Fou quand même.
Oui, alors mon métier, je suis professeur d'allemand. Comme j'habitais dans le Jura, la langue première, c'était l'allemand. Seconde, c'était l'allemand à l'époque. Donc voilà, j'ai fait toutes mes études en allemand. Je suis partie en Allemagne pendant un an comme assistante dans la vallée du Rhin, près de Cologne. C'était une année extraordinaire avec des élèves qui avaient pratiquement mon âge, parce que le bac en Allemagne, on l'a beaucoup plus tard. Moi, j'étais encore jeune étudiante à l'époque. Voilà. Et ça m'a beaucoup plu d'enseigner en Allemagne. Et si bien que j'ai voulu en faire mon métier après. Et je ne regrette pas parce que j'hésitais à l'époque entre enseigner les maths et l'allemand. Et mon professeur de maths m'a dit « Oui, oh, c'est chouette, c'est bien, t'es bonne en allemand, en maths, il faut enseigner les maths. » Et mon professeur d'allemand m'a dit « Non, 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 c'est l'allemand qu'il faut qu'elle fasse. » Elle aura beaucoup plus de chances de voyager, de faire de belles expériences, alors qu'avec les maths, elle sera clouée dans une classe. Je n'ai pas hésité. C'est un argument de poids pour moi. Voilà. Donc j'ai enseigné l'allemand pendant toutes ces années, en collège, en lycée et au collège pendant la plupart du temps.
C'est bien, en fait, le fil rouge entre vous cinq, c'est les enfants. En fait, les enfants démarraient au jardin d'enfants avec Ginette. Après, apprenaient l'allemand et les maths avec Annie et Marie-Vonne. Puis après, achetaient des jouets chez Arlette. Et puis, passaient le permis de conduire voilà. Dans l'auto-école d'Hilda. Voilà. Donc, en fait, c'est un peu...
Le circuit est fini.
Ouais, c'est le fil rouge.
Nouvelle émission Souvenir, Souvenir devient Souvenir, Souvenir de radio.
Déjà, la première question, c'était vous demander dans quelle pièce, à l'époque, chez vous, il y avait une radio. Quelle place ça occupait dans votre maison? Dans quelle pièce ça se situait? Est-ce que c'était dans le salon? Est-ce que c'était dans la cuisine? Et à quoi ça ressemblait un poste radio? Parce qu'aujourd'hui, la radio... On peut l'écouter sur un téléphone qui tient dans la poche, mais à l'époque, ça ne tenait pas dans la poche. Donc, ça ressemblait?
En général, c'était dans la salle à manger, dans un coin qui n'était pas très... Mais bon, il fallait le mettre quelque part si on voulait l'écouter. Et ça, c'était pas d'hier, naturellement. Mais quand même, on attendait ça, ce poste-là, qu'on n'avait rien pour écouter. Ben, mes parents, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, alors donc il fallait qu'ils fassent un peu qui augmentait, oui, dans la vie, qui augmentait un petit peu nous, notre petite jeunesse, à écouter les familles de ratons, les familles... etc.
Ouais, des feuilletons qui passaient à la radio régulièrement.
Voilà, ah, oui, oui, oui. Puis on se dépêchait le soir, on allait vite au poste. Moi, j'étais assis sur les genoux de mon père, et puis ma sœur était sur un tabouret, et puis on écoutait ça jusqu'à temps qu'on aille à la cuisine, quoi, manger.
Ginette, quand j'ai dit que le poste radio à l'époque, c'était un peu gros, un peu volumineux. Vous avez esquissé un sourire, c'est que vous avez souvenir de ces appareils aussi.
Oui, oui, oui. C'était dans la cuisine. On avait une grande cuisine à l'époque. Les cuisines étaient grandes. Le poste était dans la cuisine.
Oui, ben nous, c'était dans la salle de séjour. Et c'était un moment précieux. Il fallait se taire, il fallait bien écouter. Tout le monde écoutait. D'autant plus qu'il y avait des feuilletons, donc des émissions qui passaient du jour au lendemain. Il s'était passé quelque chose un jour, et le lendemain, on était pressés de savoir s'il y avait de nouveau, s'il y avait eu un incident quelconque, ou un moment de plaisir, voilà.
Et Annie, particulièrement pour vous, je voulais vous demander... Comme vous habitiez dans le Jura et que c'est une région frontalière, est-ce que sur le poste, vous captiez les radios, alors peut-être suisse ou allemande,
oui,
mais
oui,
peut-être
oui.
Plus suisse.
Pas allemande, mais suisse, oui, on avait... mes parents écoutaient la radio suisse pour la météo, qui était toujours fiable, beaucoup plus que la météo nationale. Donc, c'était... Le titre de l'émission de la chaîne suisse, je ne m'en rappelle plus, mais bon, je sais qu'on était vraiment axé là-dessus.
Est-ce qu'il y avait beaucoup de stations de radio à l'époque ?
Non. Non, il y avait. Ben, il y en avait peut-être beaucoup, mais on écoutait toujours les mêmes, parce que justement, on nous faisait tenir en haleine avec des histoires ou des animateurs qui nous plaisaient plus que d'autres. Par exemple, Zappy Max, c'était vraiment une voix qu'on aimait bien et qui nous plaisait bien.
On y reviendra à Zappy Max. Ginette, est-ce qu'il y avait des stations de radio en particulier que vous écoutiez ?
Eh bien, c'était bizarre, mais ça s'appelait Radio Andorre. Je ne comprends pas pourquoi c'était si loin...
Vous, Arlette, il y avait des radios que vous écoutiez plus que d'autres, des stations ?
Oui, mais enfin, c'est pareil. Je fais un peu comme on gardait la même station, étant donné qu'il n'y a que... C'est... Après, mes parents, il a changé peut-être, mais je n'étais pas là à regarder. Alors, donc, mais c'est vrai que... Mais Monte Carlo me dit quelque chose quand même, que ça devait être un peu dessus, nous aussi, à Tours.
Oui, ouais. Surtout que sur les postes à l'époque, il y avait les noms des villes, des noms de villes marqués hein, qu'on zappait, et c'était les radios nationales, Londres,
oui.
Berlin, il y avait tout un tas de villes de marquées Milan, etc. Et Hilda, quelle station vous écoutiez quand vous étiez jeune ?
Bah, je pense que c'était une station principalement d'Autriche, mais je ne me rappelle pas du nom, moi. Parce que je suis née en Autriche, exactement dans le Salzkammergut. Vous allez le trouver, ça vous intéresse peut-être pas, je ne sais pas, mais en tout cas.
C'est tout à l'est, donc c'est pas très loin de Vienne.
Bah oui.
Oui, oui, c'est une région où on creuse pour le sel. Voilà, okay. Pourquoi ça s'appelle Salzkammergut.
Salzkammergut, oui, c'est tout proche... Il y a le 30C, il faut retenir le 30C si vous voulez voir tout ça.
Oui, c'est les grands lacs autrichiens.
Le Soudan, il y a une belle montagne à côté, et puis d'autres plus loin. Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'Autriche encore ? Ils ont du bon vin aussi.
Alors, je vois dans le conducteur que la radio, à l'époque, donnait aussi les résultats du baccalauréat.
Oui.
Mais alors, ça devait être extrêmement long à donner.
Oui, mais c'était par catégorie, donc on savait qu'il commençait par la catégorie A, donc on savait que nous c'était plus loin, si on était dans les C ou plus loin. Donc on savait, et puis ça nous plaisait de savoir les autres aussi, s'ils avaient réussi ou pas.
Hein. J'ai le cournet des après-midi entières où on énumérait les noms et les prénoms. Des candidats au bac et qui voulaient savoir où ils en étaient pour savoir s'ils en bouquaient et ils en bouquaient. Et c'était vraiment un traumatisme important. Et je crois que ça a toujours été comme ça avant. Ma foi, chacun qu'elle pourra. Mais sinon, il n'y avait rien de particulier, si ce n'est les listes d'élèves. Alors, jury 103, 135. On en était déjà au jury 135.
On donnait les résultats par numéro de jury, donc si j'ai bien compris.
Oui.
Nouvelle émission Souvenir, Souvenir devient Souvenir, Souvenir de radio.
Je vois que sur le conducteur que Annie, vous aviez préparé quelque chose sur Zapimax. Alors moi, je vous avoue, Zapimax sur RTL, ça ne me parle absolument pas, je ne connais pas du tout. Donc je veux bien que vous nous expliquiez qui était ou qu'est-ce que c'était que Zapimax sur RTL.
Bah, je n'ai pris aucune note, mais je me rappelle de sa voix. Je l'entendrai à la radio, que je dirais c'est Zapimax. Il avait vraiment une voix typique et... Bon, ce qu'il racontait, c'était mélange d'humour, d'actualité, de chansons et de blagues. Oui, c'était tout était mélangé. Alors, il s'appelait de son vrai nom Max Doucet. Ben, je l'ai appris en faisant les recherches. Il est né en 1921 et il est mort à l'aube de ses 98 ans en 2019. Au moment de son décès, on a pu lire « Le dernier pionnier de l'âge d'or de la radio vient de quitter la scène et les micros. » Sa voix a bercé plusieurs générations. Il commençait toujours « Chers amis, bonjour !» Zapimax lançait ainsi son célèbre jeu « Qui tout double ?» Dès 1947, d'abord sur Radio Luxembourg, puis Radio Monte-Carlo. L'abbé Pierre y a gagné assez d'argent pour offrir un camion aux compagnons d'Emmaüs. C'était le dernier des géants de la radio française et la dernière grande voix d'une époque révolue, l'époque reine des transistors. En 1947, il est engagé par Louis Merlin pour animer de nombreux jeux sur Radio Luxembourg, tels que Qui tout double et C'est parti mon zapi. Sa présence à Radio Luxembourg s'achève et il passe sur RTL. Il poursuit sa carrière radiophonique à Radio Monte Carlo, RMC, en reprenant le jeu Qui tout double, de 1974 à 1983. C'était un jeu radiophonique, tout le monde connaît, je pense.
C'était des questions de culture générale.
Culture générale. Les gens pouvaient choisir leur matière. Et s'ils étaient doués en histoire, il y a des gens qui allaient très très loin, parce qu'on commençait à 10 francs, on multipliait par 2, 20 francs, 40, 80, tout le temps on multipliait par 2 la somme gagnée. La personne qui réussissait pouvait s'arrêter en cours de jeu et partir avec la somme, ou alors dire double. Et là, donc, ça devenait de plus en plus dur, et des fois certains étaient pratiquement au bout des questionnaires, avait tout réussi. Les dernières questions se trompaient. Zut, c'est comme ça. Pas de chance.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons maintenant jouer un autre kit ou double. Ce jeu, vous le savez, apporte la fortune aux gens d'esprit. Et rapidement, je vous en rappelle le règlement. C'est un jeu à base de questions. Première question bien répondue. 250 francs. Nous doublons à chaque bonne réponse 500, 1000, 2000, 4000, etc., etc. Le concurrent s'arrête quand il le désire, mais si par malheur il va trop loin et qu'il ne sache pas répondre à l'une de nos questions, il perd automatiquement le bénéfice financier que jusque-là il avait amassé. Et sans plus attendre, faites entrer notre premier candidat.
C'est un peu une sorte d'ancêtre de qui veut gagner des millions,
c'est un voilà, problème, c'est ça, principe. C'est ça, mais c'était radiophonique. Et je sais qu'avec mes parents, un participant était très bon, mais mes parents mettaient un poids d'honneur à écouter le lendemain et le surlendemain pour savoir s'il gagnerait.
À l'époque, aujourd'hui, c'est quand on écoute une animatrice ou un animateur radio, une journaliste ou un journaliste à la radio, on se fait une représentation, je pense, dans notre tête de à quoi il peut ressembler.
Oui.
Mais c'est très facile aujourd'hui de vérifier. On va sur Internet Et on trouve des... On va sur le site internet de la radio et on trouve des photos des animateurs. À l'époque, il y avait moins ça. Donc, Zappy Max, vous le représentiez par rapport à ce qu'il était en vrai physique?
Je me le représentais grand, le visage fin, mais avec une moustache et une barbe. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça.
J'ai vérifié, il avait de la moustache.
Il avait de la moustache, voilà. J'ai vérifié aussi.
Je croyais qu'il était petit, mais je l'écoutais aussi beaucoup.
Nouvelle émission Souvenir-Souvenir devient Souvenir-Souvenir de radio.
Alors, si j'ai préparé quelque chose de Léon Citron, né en 1914 en Russie et mort en 1995 à Paris, fut un journaliste, présentateur, animateur à la télévision, mais aussi à la radio. Je ne fais pas aussi bien que Léon Citron. J'ai besoin de citron pour arranger ma voix. Bon, allez, soyons sages. Il faut que j'ouvre les yeux parce que dès que je rigole, ça mouille les yeux. Hein. Il est très connu par sa carrière à la télévision. Hein, si vous avez oublié comme moi, c'est Léon Citron. On ne parle pas des citrons, mais de Léon. Il a commenté des courses hippiques et le tiercé, présenté le journal télévisé de la première chaîne de l'ORTF, mais aussi animé des jeux télévisés comme Interville.
Avec Guy Lux.
Ou Jeux sans frontières.
Guy Lux, oui. Guy Lux, je vous prie le micro. Monsieur Zidron vient d'être blessé.
Allô, Guy Lux. Guy, oui. Je vous demande infiniment pardon, Guy.
Oui.
Je n'y vois plus rien. Je n'ai rien à l'œil, mais l'on m'a cassé mes lunettes. Par conséquent, nous allons voir comment nous allons faire le tir à la corde. Malheureusement, sans lunettes, je ne peux rien faire. On va essayer d'y parer. Par conséquent, nous allons improviser, mais malheureusement, je n'ai plus tout à fait tous mes moyens.
Tout ça, on connaît tous, probablement. Il a commenté à 6 reprises le Tour de France et assuré la présentation des Jeux Olympiques à 8 reprises. Il est aussi connu pour être le commentateur clé des grands événements, notamment les mariages, funérailles et investitures des grands de ces mondes. Côté radio, il n'est pas en reste. En 1975, sur RTL, Léon Citron présentait l'heure C, un rendez-vous quotidienne information, puis en 1976, il animait appelé On est là, aux côtés de l'Evelyne Paget. Très cultivé, il sait aussi faire preuve d'un humour ravageur, talent qu'il montrera en étant l'un des invités de référence des grosses têtes de RTL. Alors, comme je ne suis pas une grosse tête, je m'arrête. Je vous dis bonsoir.
Appelez, on est là, mesdames et messieurs, bonjour. Appelez, on est là. C'est pour tenter d'arranger les choses que nous travaillerons pour vous et dans aucun autre but. Appelez, on est là, 720-22-11. Quant au courrier, 22 rue Bayard, Paris 8e, ne l'envoyez pas ailleurs. Moi, il me revient avec 3 semaines de retard du courrier que vous avez adressé ailleurs. Vous avez tort. Il faut l'adresser ici. Il faut écrire 22 rue Bayard, Paris 8e. Ou alors vous nous téléphonez au 720-22-11. Voilà.
D'autres autour de la table qui ont des souvenirs ou des anecdotes avec Léon Citron à la télé ou à la radio Arlette.
Oui, moi je l'ai vu, connu. Il était, c'était un homme assez fort et sympathique. Moi, j'ai ces correspondances en tête comme ça.
Je pense que c'est une époque où certains journalistes, animatrices, speakerines aussi, incarnaient complètement aussi les chaînes de télé ou les stations de radio dans lesquelles ils exerçaient.
Oui.
On associait une radio à un animateur ou une chaîne de télé à la speakerine.
Oui.
Nouvelle émission Souvenir devient Souvenir de radio.
Créée en 1936 par Radio Cité sous le titre initial Autour de la table, la famille du raton s'impose rapidement comme un divertissement radiophonique français à succès. Imaginé par Jean-Jacques Vital, ce feuilleton satirique raconte avec humour et simplicité le quotidien d'une famille de Français moyens, un sujet qui résonne avec des millions d'auditeurs. À ses débuts, le service s'appuie sur le talent du comédien Noël, mais c'est véritablement à partir de 1948, avec sa rediffusion sur Radio Luxembourg, Radio Monte Carlo et Radio Andorre, que la famille du raton atteint son apogée. Jusqu'en 1966, cette saga a accompagné des générations de Français, à une époque où la télévision était encore rare. Chaque épisode, centré autour d'une conversation autour de la table familiale, reflétait avec humour les petits tracas, les grandes joies de la vie quotidienne. Ce feuilleton a également rassemblé des comédiens de talent tels que Jean Granier, Del Rizel, Jeanne Sourza, Jean Carmet et bien sûr Jean-Jacques Vital qui en était aussi le scénariste producteur. L'inspiration du feuilleton viendrait d'une observation de Jean Granier, fils de Saint Granier. Selon lui, une simple soirée à table chez Noël pourrait alimenter un mois entier d'histoire. C'est ainsi qu'est née cette saga au concept original, capable de captiver les auditeurs grâce à des intrigues simples et authentiques. Le succès de la famille du raton a également inspiré le grand écran avec trois adaptations notables, La famille du raton en 1939, puis Pris sur le vif en 1943 et Les Duratons en 1955. La famille du raton n'était pas qu'un simple divertissement. Elle représentait un véritable rendez-vous familial à une époque où la radio était le cœur de la maison, avec des dialogues captivants et des personnages attachants. Le feuilleton offrait un reflet de la société tout en faisant sourire. Ce feuilleton culte, par sa longévité et son succès, a certainement inspiré de nombreux artistes et scénaristes en montrant que tout commence parfois autour d'une table, plus qu'un simple programme. La famille du raton incarne une leçon d'adaptabilité et de créativité, rapportant que même les idées les plus simples peuvent devenir des succès durables. Un bel encouragement pour ceux qui se lancent dans une carrière artistique.
13h10, les Duratons permissionnaires avec Jean-Jacques Vital, Jean Granier, Yvonne Galli et Lise Lina.
Lisette, sois gentil, apporte-moi l'annuaire du téléphone.
Celui des noms ou celui des rues, papa?
N'importe, c'est pour me le mettre sur la tête.
Quoi?
Oui, ne cherche pas à comprendre, mon chéri, apporte-moi l'annuaire.
Ben tiens, le voilà.
Merci, regarde, je le pose sur ma tête.
Oui, je vois.
Parce que je m'entraîne pour être mannequin militaire.
Toi aussi?
Oui, Jean-Jacques était au renseignement ce matin. Alors, je voudrais acquérir de l'aisance, de l'allure. Mmh. Et j'ai lu dans Marie-Claire qu'il fallait se mettre un livre très lourd sur la tête.
Ah, je vais te donner celui des noms, il est bien plus gros. Tiens.
Oui, alors, je vais mettre les deux, tiens. Et puis, il faut pas qu'il tombe, hein. Alors, regarde si j'ai de l'allure.
Nouvelle émission Souvenir devient Souvenir de radio.
Bon, je vais vous parler maintenant d'une grande dame de la radio qui avait un lien avec la Touraine. C'est Minnie Grégoire. Elle a vécu de manière régulière dans la maison de ses grands-parents à Rochecorbon et est décédée à Tours en 2014. Minnie Grégoire est connue pour avoir animé une émission de radio d'écoute et de parole intitulée « Allô, Minnie » sur RTL de 67 à 82. Elle était, surmenée la dame de cœur et ses émissions « Allô, Minnie » et « Responsabilité sexuelle » sur RTL ont battu des records de longévité. Plus de 14 ans de 1967 à 1981, excusez-moi. L'émission Allô Minnie, qui durait de 30 minutes à 1 heure selon les périodes, avait lieu chaque jour en direct en début d'après-midi. C'est vrai, on y allait avant l'école, oui. Après lecture et commentaire d'une lettre, Minnie Grégoire répondait en direct à des appels d'auditrices durant 6 à 9 minutes. Avec son émission, Minnie Grégoire est souvent considérée comme la première psychologue de la radio. Elle a permis à de nombreuses auditrices de prendre de la parole pour parler de leur vie familiale et intime, pour confier leurs difficultés et leurs peines.
On l'écoutait volontiers parce que c'est elle qui nous préparait à la vie, parce que nos parents ne nous disaient pas grand-chose, alors que Minnie Grégoire nous donnait des informations qu'on aurait pu avoir par des amis peut-être, mais par elle, c'était beaucoup plus distingué et complet, on va dire.
Oui. Voilà.
On osait lui poser des questions. Oui. C'est vrai, les parents, c'était tabou de parler de sexualité, alors qu'avec elle, on savait. Oui. Donc c'était un plus dans notre éducation.
15h04, chère Meunie, vous arrivez juste à l'heure pour
vous parler
de tendresse.
De tendresse, Jean. Alors, je vous commence donc par ma première lettre sur la tendresse. Et bien entendu, c'est une lettre de femme.
Ouais.
Alors, je ne vous dis pas à vous, faites le premier geste de tendresse, parce que je sais que vous ne pouvez pas, vous exploserez. Je vous dis, réfléchissez, remontez plus haut. Votre homme, votre mari, ce bon mari, il n'est pas votre maître. Et vous ne le servez pas. Vous êtes des amis, vous êtes des semblables. Eh bien, quand vous vous serez mis ça dans la tête, vous oserez commander des caresses, vous ferez des mots croisés avec lui, vous lirez les mêmes livres, et brusquement, vous n'aurez plus besoin de demander la tendresse, vous serez pareil, et la tendresse viendra, et elle viendra toute seule.
C'est vrai que ça vient aussi rappeler que on n'a pas toujours vécu des époques très simples pour parler des problèmes d'adolescents avec nos parents. Ouais.
Non. C'était pas. Il fallait en parler peut-être, mais cacher un peu des paroles que l'on disait.
On n'expliquait rien.
Fallait le découvrir.
J'imagine, Ginette, que dans le pensionnat religieux, Minnie Grégoire, c'était pas non plus au programme.
Oui, là, je crois que.
Ça ne faisait pas partie de notre éducation.
Alors, oui.
Ouais. Ceci dit, elle était large d'esprit. C'était une petite structure. C'était fait pour des jeunes filles. Il y avait des ouvroirs où on apprenait la couture. Et nous, on était un groupe de 7 ou 8 enfants. Donc, on était à part, on vivait vraiment. Allions à l'école laïque.
Surtout, ce qui était extraordinaire.
Parce que la religieuse venait nous chercher à la sortie de l'école. Bon, elle ne rêvait pas de ça pour nous, mais elle s'en arrangeait bien.
Oui.
Nouvelle émission Souvenir devient Souvenir de radio. Donc, je vais maintenant vous parler d'une émission de radio qui a beaucoup marqué ma génération. C'est « Salut les copains ». C'est une émission de variété radiophonique lancée en 1959 sur Europa. Le titre de l'émission est emprunté à une chanson de Gilbert Bécaud. Salut les copains. L'émission est diffusée le jeudi, jour sans école, et dure une demi-heure de 18h à 18h30. Le présentateur est Daniel Filipacchi. Devant le succès, l'émission passe rapidement à une fréquence quotidienne, du lundi au vendredi, entre 17 et 19h. Les lycéens couraient à la sortie des classes pour aller écouter leur émission sur leur petite radio transistor. C'est vrai qu'on n'avait pas les petits portables comme pour écouter la musique, c'était des petits appareils radio qu'on pouvait tenir facilement, mais c'était pas non plus les gros appareils qu'on avait à la maison. Le succès est relayé par le mensuel Salut les copains. Voilà, donc il y avait l'émission à la radio, et après on a eu l'hebdomadaire Salut les copains, lancé en 1961. Il va s'avérer un vrai phénomène de presse avec une diffusion de l'ordre d'un million d'exemplaires. Le soir du 22 juin 1963, l'émission révèle une puissance de mobilisation que personne n'aurait pu imaginer auparavant. Sans aucune autre promotion que quelques annonces passées les 2 ou 3 jours précédents au micro de Salut les copains, faisant savoir que se tiendrait Place de la Nation à Paris, un concert gratuit avec beaucoup de vedettes, dont Sylvie Vartan et surtout Johnny Hallyday. Quelques 150 000 jeunes accoururent sur les lieux, du jamais vu. L'apogée de l'émission se situe entre 1961 et 1967. Elle est déprogrammée 9 ans après la création, fin mars 1968. Salut les copains revient à l'antenne au cours des années 90 et sa présentation est assurée par Karen Cheryl. Voilà, mais c'est plus Salut les copains.
Voilà. Alors je pense que peut-être tout autour de la table, j'imagine qu'il y a des artistes qui ont été diffusés dans cette émission que vous pouvez citer. On a cité Gilbert Bécaud, Johnny Hallyday, qui d'autre à l'époque faisait partie des...
Les Yéyé. On les appelait tous ceux qui aimaient Johnny, Sylvie, Sheila, les frères, il y avait des groupes de chanteurs, pas les Beach Boys, mais les chaussettes noires.
Des Eddie Mitchell.
Avec Eddie Mitchell, voilà. Ouais, dont il est sorti pour chanter.
Sheila aussi
chantait, oui. Et il y avait encore un autre groupe. Il y avait les chaussettes noires et les chats noirs. C'est vrai. C'était une époque pour nous rêver, parce que on était regroupés, les copains, les filles, pour écouter ça, et les parents n'avaient pas peur. Ils étaient tranquilles, les parents, de nous écouter. C'était pas des bêtises comme ils auraient pu croire. Ah oui, alors à la radio, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait téléphoner. On avait un numéro de téléphone en début d'émission. On pouvait téléphoner pour dédicacer une chanson à un petit copain ou une copine ou aux parents, si on préfère, à la famille. Mais en général, les filles n'hésitaient pas à envoyer la chanson préférée de leur copain et de lui dédicacer. Ça, c'était un plus. On attendait ça avec impatience.
Les jeunes aujourd'hui diraient que, en fait, il suffit de se taguer sur les réseaux sociaux. Mais à l'époque, on se dédicaçait la chanson préférée de l'un ou de l'autre sur une radio. Sur le principe, sur le fond, c'est la même chose. C'est qu'il n'y a que la forme, en fait, qui diffère. Mais ça revient un petit peu. C'est presque un petit peu pareil. Et sur le côté dédicace, en fait, je ne peux pas m'empêcher de repenser à... On en a parlé quand on a parlé de Léon Zitrone à Guy Lux et à son émission qui était à la radio aussi, il me semble, le Schmilblick.
Oh oui.
Et du coup, je repensais au sketch de Coluche.
C'était quelque chose, cette émission. Le Schmilblick, pour ceux qui s'en amusaient.
Bonjour Minux.
Allez-y, posez votre question, monsieur.
Bon, alors voilà, je voudrais dire à ZZ qu'elle aille directement chez René, parce que comme j'ai paumé les clés du camion, on va être emmerdé pour lui livrer la barre.
On lui dira, monsieur. Enfin, alors, on lui assume, s'il vous plaît, Simone.
Est-ce qu'aujourd'hui, même si peut-être ici c'est peut-être plus compliqué, je sais pas, est-ce qu'il y a des radios que vous écoutez toujours, que vous continuez d'écouter ou que vous écoutiez encore il y a peu de temps?
Radio classique.
Moi, je saute. Ouais, des fois, c'est la C8, des fois, c'est RTL, des fois, c'est la 3e, la 2. Moi, je zappe.
À la télé, ouais, vous zappez.
Oui. Ah, à la télé. Et c'est encore Radio Classique. Voilà, tant que je pourrai.
Ginette, en la télévision ou à la radio, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des chaînes ou des stations que vous préférez ou que vous regardez?
Plus la télé.
Pas spécialement. Je mélange tout ça.
Elle zappe. On est quand même attaché à une station plus que l'autre. Et c'est celle qu'on va écouter le plus souvent. Moi, je sais que je ne vais pas aller sur toutes les autres. Une me suffit, ou deux.
Oh non, je tourne plus que ça, moi. La 1, j'ai la 11 dessus aussi, sur la 1.
Oh, moi, j'aime pas.
Sur la RTL, j'ai la 11. Le 12, je ne sais plus. La 37, c'est par ici. Oui, moi, je...
Voilà, associer les chaînes au numéro 1.
La 15, la 20 aussi, c'est toutes les chaînes que je peux avoir. Oui.
C'est des numéros à la télévision qu'on va parler. Ouais. Et si je veux l'Autriche?
Là, il faut une antenne satellite.
Ouais, ça, je ne sais pas si... ça, je sais pas si je...
Il faut prendre un abonnement et tout demander. Ah,
vous croyez que ça ne marche pas tout seul?
Il faut essayer de regarder sur...
Avec Internet, oui, on peut.
Oui, on regardera.
Nouvelle émission Souvenir devient Souvenir de radio.
Je prends à nouveau la parole pour vous parler de Geneviève Tabouy. Attendez-vous à en savoir plus sur cette autre grande dame de la radio. Elle est née en 1892 et décédée en 1985 à Paris. Elle étudie à la Faculté des Lettres de Paris et à l'École d'archéologie du Louvre, ce qui lui fera écrire plusieurs biographies à succès sur Toutankhamon et Salomon. Entre 1907 et 1914, elle se rend chaque année à Berlin pendant 2 mois pour rendre visite à son oncle, Jules Cambon, nommé ambassadeur de France à Berlin, ce qui lui permet de rencontrer plusieurs dignitaires allemands. Après la fin de la Première Guerre mondiale, elle assiste avec lui à plusieurs séances de la Société des Nations. Elle ne cesse de mettre en garde contre la montée d'Adolf Hitler et le réarmement allemand. Elle suit de près la guerre d'Espagne. Réfugiée à Londres en raison de ses prises de position farouchement opposées au nazisme, elle ne rejoint pas la France libre naissante, mais part aux États-Unis où elle dirige de 1942 à 1945 un périodique francophone. Rentrée en France, elle fait partie des services de politique étrangère de divers journaux comme La France Libre, L'Information et Paris Jour. Épouse depuis 1916 de Robert Tabouy, qui deviendra PDG de la Compagnie Générale de la Télégraphie sans fil, puis administrateur de Radio Luxembourg, elle se fait connaître de la France entière sur cette enseigne par ses chroniques politiques. Les dernières nouvelles de demain. C'était le titre de son émission, qui entamait invariablement par la célèbre phrase fétiche « Attendez-vous à savoir », relayée par « J'ai encore appris » et enfin « Et vous saurez ». Elle conclut tous ses éditoriaux à Radio Luxembourg d'un « Au revoir, mesdames et messieurs » et « à dimanche prochain pour les dernières nouvelles de demain ». À 88 ans, elle faisait encore de la radio.
Geneviève Tabouy, les dernières nouvelles de demain. Mesdames, messieurs, attendez-vous à savoir, à propos des inquiétudes du Kremlin sur l'évolution de la situation au sud-est asiatique, j'ai appris que jusqu'au mois de décembre, la position de Moscou était de fermer les yeux.
nouvelle émission Souvenir, Souvenir devient Souvenir, Souvenir de radio.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ils bossent 11 mois pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Dire qu'il y a des gens en pagaille qui courent sans cesse après le travail. Moi, le travail me court après. Il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os.